Sylvain Roche, Claire Collin-Collin. On est aujourd'hui dans l'atelier d'Annie Paul Torel, qui est en Bourgogne, dans le village, et qui est à l'étage d'une maison. Et il a une forme de plusieurs pièces en enfilade qui donne sous le toit, avec des luxes, et donc des découpes de lumière. Et est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit ?
Oui. Alors là, on est dans une pièce qui est particulière, parce que ce n'est pas la pièce où je peins. La pièce où je peins, elle est à côté. Cette pièce-là, elle est réservée à la réflexion et à l'usure des peintures, on va dire. C'est-à-dire que quand j'ai fini, quand je pense qu'une peinture est aboutie, je la déplace et je la mets dans cette pièce-là. Et je l'use un peu de mon regard pendant un bon moment. Et si elle tient, elle va être usée en bas, dans ma pièce de vie, parce que j'ai besoin de vivre avec et de voir si la présence, enfin tout ce que j'ai questionné et voulu interroger dans cette peinture-là, est là ou pas. Et si c'est pas là, ça remonte et ça repart dans l'atelier. Et donc c'est tout un circuit qui est très important pour moi, quoi. Et donc dans cette pièce-là, c'est aussi une pièce où quand les gens visitent mon atelier, je peux sortir des choses plus anciennes, des choses comme ça. Mais donc il y a il y a plein de tableaux le long des murs, sur les murs, avec des séries différentes, puisque je travaille des séries différentes.
En simultané.
En simultané, oui. Oui, en même temps. Bon, ça peut être en alternance, mais s'il y a une exposition en préparation et que je décide de montrer qu'une série, je vais travailler sur cette série-là pendant longtemps, mais j'aime bien avoir sous l'œil les autres séries, parce que ça peut aussi avoir une influence que je ne mesure pas vraiment, mais la présence est importante pour moi. Elles sont là, quoi. Comme j'interroge des choses très différentes entre la série des bandes larges et puis la série des traits fins, ce sont des peintures qui se construisent pas du tout de la même façon. Et c'est ce passage d'une construction à une autre qui, moi, me fait beaucoup réfléchir sur la peinture, qu'est-ce que c'est qu'un tableau, qu'est-ce qui fait qu'un tableau existe ou n'existe pas, à quel moment la bascule se fait. Puisque moi, j'élabore au fur et à mesure avec la peinture, avec la toile. C'est-à-dire que je dessine beaucoup d'un côté, mais quand je vais, alors qu'en apparence ça peut paraître une peinture très contrôlée, très en fait c'est un saut dans l'inconnu. Je vais démarrer avec une bande de couleur noire ou une bleu ciel et puis je vais construire comme ça un rythme de bande colorée que je vais faire bouger aussi, changer de place, que je vais changer de couleur, que je vais modifier. C'est très rare une peinture qui tout à coup s'assied d'emblée comme ça en une fois. Ça m'est arrivé, mais en fait, parce que je sais pas définir à l'avance ce que je cherche. À la fois, c'est pourquoi je refais une peinture après une autre. C'est parce que je cherche quelque chose de nouveau à chaque fois. Enfin, j'interroge la peinture en me disant « Et là, si je vais là, ça fait quoi ? Quel espace je crée ? Quelle lumière je crée ?» Donc, j'y retourne. Et la série, c'est aussi un peu ça, quoi. C'est de voir le potentiel de la peinture et le fait qu'avec le choix... Un choix graphique extrêmement simple qui est la ligne, finalement, il y a un monde qui s'ouvre avec plein de possibles. Des choses qui ne fonctionnent pas, parce que ce n'est pas mon espace, mais voilà.
Est-ce que concrètement, tu peux décrire les peintures qu'on voit d'où on est là?
Ouais, alors, ça c'est la série de ce que j'appelle les bandes larges, c'est, qui s'appelle Tyria, donc qui est constituée à sa surface d'une série de bandes plus ou moins larges et qui ont des couleurs différentes. Chaque bande a une couleur différente. Alors il y a des bandes très fines. Par exemple, dans ce tableau-là, il y a une bande orange très très fine, une autre un petit peu plus épaisse, orange. Après, il y a une bande beaucoup plus large qui est dans un ocre rose. Une autre qui est rose tyrien, à côté une bande plus petite qui est un vert bronze un peu, et puis un gris bleu à côté, et sur le bord il y a un gris bleu mais qui tire plus vers le bleu que vers le gris, un peu charron, un bleu un peu charron, Bon, et chaque peinture possède ses couleurs, parce que ce qui est pour moi un enjeu, c'est une peinture, c'est comme une pièce, c'est comme un espace. C'est un lieu qui a une profondeur, alors qu'on pourrait penser que ces surfaces tendues, en aplat, elle ne crée pas de profondeur, mais pour moi, je cherche de la profondeur et de la circulation. C'est-à-dire qu'on puisse rentrer par une couleur, passer derrière une autre, et puis ressortir avec une couleur qui vient devant. Et c'est toujours un climat, une atmosphère. C'est comme quand on rentre dans une maison, il y a des pièces qui ont une certaine atmosphère. Et on s'y sent bien, on s'y sent pas bien, il y a du soleil, au contraire il y a de une pénombre. Pour moi, chaque peinture, c'est ça, c'est vraiment, à la fois c'est une abstraction, bien sûr, mais en même temps, c'est aussi un volume. C'est aussi un volume dans lequel moi, quand je travaille, je pénètre. Il y a un intérieur et il y a un extérieur. Et la personne qui regarde, elle peut très bien rester à l'extérieur et le vivre comme quelque chose qui est devant elle, qui lui fait face. Mais elle peut aussi rentrer dedans si son regard va jusque-là, quoi. Et donc il y a des atmosphères chaudes, il y a des atmosphères froides, il y a des passages dans certaines peintures qui vont du froid au chaud, ou de la lumière extérieure à une lumière intérieure. J'aime bien aussi ce côté dedans, dehors, on rentre par l'extérieur et puis tout à coup on arrive dans une lumière d'intériorité. Et c'est aussi, ça dépend du jour. Ça peut être une lumière du soir, ça peut être une lumière de grand éclat, ça peut être, comment dire, par exemple celle-ci, qui aussi c'est aussi une histoire d'architecture pour moi, la peinture. C'est une construction, un peu comme une maison, d'abord parce que les couleurs sont construites, c'est-à-dire que mes couleurs, elles ne sont jamais sorties du tube. Je les construis à partir de pigments, je travaille avec la cire. Et donc, il y a, par exemple, dans celle-ci, je trouve qu'il y a une austérité avec ce vert clair là qui fait une trouée. Mais tout le reste, pour moi, c'est une lumière d'intérieur. C'est presque une fenêtre, le vert. Et ce qu'il y a de chaque côté, c'est l'intérieur de la pièce. Mais c'est une pièce pas rigolote. C'est une pièce qui est un peu par rapport à d'autres. Par exemple, celle-ci, avec la bande orange et le bleu, c'est quelque chose de beaucoup plus. Il y a une fraîcheur, il y a, pour moi, hein, il y a quelque chose de printanier, quoi, quelque chose de, de, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes lumières. Voilà, il y a des petites rigolotes, et puis il y a des pas marrantes. Elles ont toutes pour moi une personnalité, parce que c'est ça la peinture, c'est aussi une narration qui n'est pas une narration figurative, qui est une narration plastique. Mais qui est néanmoins un chemin de regard, un cheminement. Et puis moi, la couleur pour moi, c'est vraiment comme un personnage dans une pièce de théâtre. Ça joue un certain rôle dans l'ensemble de la pièce, quoi. Et donc je vais monter un peu mon vert, mettre un peu de bleu dedans, parce que à côté il y a un jaune de Naples et que cette rencontre dialogue d'une certaine manière, alors que si je mets un jaune citron, il y a une rencontre qui est beaucoup plus violente. Donc pour moi ça raconte aussi des choses comme ça, c'est-à-dire que la proximité d'une couleur avec une autre, elle dit des choses, enfin pour moi elle me dit des choses, et ça peut être un côtoiement doux et plein de gentillesse et d'accompagnement, ou ça peut être quelque chose qui va venir comme une rupture et qui va faire que l'œil va sauter. Et c'est vrai que en même temps, celle-ci elle est très symétrique, mais j'en ai pas beaucoup des symétriques, parce que moi j'aime bien bousculer l'espace et amener un déséquilibre. Tout à coup il y a quelque chose qui est plus léger ou qui est plus lourd et qui va faire pencher la toile d'un côté ou de l'autre. Et puis parfois j'aime bien aussi que les couleurs elles grincent entre elles, qu'elles crissent sur l'œil, que ce soit pas harmonieux, joli, mais que ça vienne titiller l'œil. Parfois ça peut être au contraire quelque chose de très très posé, très, enfin bon. Pour moi là, c'est tout ça qui se mais quand je fais, je me dis pas tout ça. Quand je fais, je suis c'est mon œil qui travaille, c'est la pensée picturale qui travaille, et je me raconte pas ces histoires que je raconte maintenant. C'est-à-dire que quand elles sont finies, je les regarde et je me balade avec elles dans l'imaginaire, dans mes souvenirs, dans des choses comme ça. Mais quand je peins, c'est un peu comme quand on fait un plat, hein. C'est des histoires de saveur, de goût, d'appétit. Pour moi, la peinture a un lien très étroit avec... si je peins, c'est parce que j'ai faim de peinture, tout le temps.
Et la cuisine est importante.
Oui, moi j'aime bien faire la cuisine, oui, les saveurs.
Vu que tu travailles à l'encaustique, donc du coup t'as quand même, enfin ça mijote. Fin...
Ah oui. Et, oui, puis depuis très longtemps, parce que je me souviens quand j'ai commencé à peindre à l'huile, j'ai voulu broyer mes couleurs. Et j'avais quelques amis peintres qui étaient aux Beaux-Arts qui me disaient, tu sais, c'est plus rapide chez le marchand à côté, hein. Et moi je disais non. Parce que je voyais le pigment sur la plaque de marbre pure, et puis je voyais comment à travers le broyage, la couleur avec l'huile se transformait. Et en fait, moi, je commençais à peindre à partir de ce moment-là. J'entrais dans une espèce de geste un peu méditatif, ce qui me permettait aussi de contrôler l'épaisseur, le côté fluide. Moi, j'ai pas fait les Beaux-Arts, donc c'était ma manière à moi d'apprendre, de, de m'approprier des choses qui, voilà, qui ne m'étaient pas données et que je voulais explorer, je voulais comprendre comment ça marche. Et je pense que le fait de broyer mes couleurs a fait que, oui, la couleur est une chose très vivante pour moi. Et après, j'ai en fait, je trouvais que l'huile, c'était l'huile enlevée, faisait un film, enlevait quelque chose du pigment, le faisait descendre. Et moi, je voulais toujours quelque chose de plus proche du pigment. Et en fait, j'ai essayé à mettre un petit, puis ça s'est transformé parce que j'ai inversé les choses, j'ai fait une peinture. Et l'encaustique altère très peu le pigment, très peu. Un petit peu, hein, un liant c'est toujours, mais beaucoup moins. Et il y a comme ça ce côté peu velouté, un peu vibrant qui est donné par... La matérialité de la peinture, pour moi, a toujours été une chose importante et faisait partie de la peinture. Enfin, il y a des artistes qui ne travaillent pas sur les matériaux, ils s'en fichent. Mais moi, dans ma rencontre avec la peinture, avant même de commencer à peindre, je crois que ce qui me procurait le plus d'émotions, c'était la matérialité de la peinture. Et après, la manière dont le peintre l'a traité, quoi. Mais ça, c'était une chose extrêmement importante pour moi.
C'est sûr que le dessin de tes surfaces est, on va dire, minimal.
Oui.
Mais elles ont une vraie présence. Il y a vraiment une vraie présence de la couleur et c'est vraiment une juxtaposition en fait de blocs colorés qui à la radio va être assez dur à expliquer. En photo, je pense que tu perds beaucoup de ton travail.
Oui, ça se voit, et, ça se voit pas.
Ça écrase.
Ouais. Oui, ça écrase. Ouais.
Et c'est assez, ouais, c'est vraiment prenant. Enfin, et côté de ça, ce qui touche aussi, c'est qu'on a une quinzaine de peintures autour de nous, voire plus, on trouve jamais la même couleur.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on doit avoir peut-être 150 tons autour de nous. Et ce qui est assez. Enfin, je veux dire, c'est une palette qui est riche. C'est rare de voir des choses comme ça. Quoi.
C'est pour ça que je dis que c'est comme la construction d'un mur, c'est de l'architecture. Une couleur, elle se construit. Et alors, elle se construit à la fois quand je la fabrique, hein, puisque je vais vouloir avoir un vert, je vais faire un vert avec du noir et du jaune. Si je fais un vert avec du bleu et du jaune, j'aurai pas du tout le même vert. Si je fais un vert avec du brun et du jaune, je vais encore avoir un autre vert. Si je rajoute un peu de rouge, on part dans une nuance, dans un ton qui se modifie. Donc il y a au moment de la construction, mais il y a aussi la superposition. C'est-à-dire ce qu'il y a dessous, qu'on ne voit pas, qui va aussi transformer la couleur. Et donc moi je joue des deux à la fois. C'est-à-dire ce qui est en dessous. Il n'y a jamais un seul un ton n'est jamais appliqué directement, c'est-à-dire que c'est vraiment une construction. C'est sous ce bleu il y a un autre bleu, ou si je veux que ce bleu là devienne un peu plus chaud parce que le bleu c'est froid, il y aura peut-être un rouge ou un brun. Alors on ne voit pas, mais néanmoins il participe de la perception que l'on a, même si on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que ça donne une grande richesse picturale. Et c'est aussi pour ça que même si ce sont des lignes, c'est un principe extrêmement simple qui peut être pris comme un concept, moi je ne le prends pas du tout comme ça, parce que je reviens à cette histoire de pièces, de lieux. Moi, c'est un lieu que je construis. C'est pas une surface. Même si la peinture n'est que surface. Mais néanmoins, pour moi, c'est pas une surface. Et c'est en ça que je me différencie énormément. Parce qu'on dit, ah ouais, mais les bandes, il y a plein de gens qui travaillent des bandes. Mais je veux dire, tous les Américains, Bridget Riley, plein d'artistes ont travaillé la bande, mais ils l'ont travaillé sur le plan américain. C'est-à-dire, c'est un plan. Il n'y a absolument pas de profondeur. C'est que toutes les couleurs sont mises sur le même plan. Et c'est un jeu plus formel pour moi. Et moi, j'avais envie de reprendre cette simplicité, mais pour montrer que finalement, rejoindre, j'espère, mais c'est prétentieux ce que je vais dire, mais des peintres comme Vermeer ou des peintres de l'histoire de la peinture. Sauf que moi, j'ai dit non à l'image. Pour moi, le monde est envahi d'images. J'ai pas envie d'en rajouter. Et j'ai dit non au formalisme aussi. Mais tout en intégrant les leçons de cette histoire-là, quoi. Des peintres qui m'ont marqué, que j'ai regardé. Mais je pense que Rothko m'a plus influencé dans justement cette façon de travailler sa surface, mais dans un sentiment comme ça de profondeur, de surgissement, d'aller-retour comme ça, cette façon de travailler les bords, enfin bon, voilà, ça...
Bah, s'il y a une image, c'est la peinture.
Oui, s'il y a une image, c'est la peinture.
Parce que c'est ça, enfin, il y a quelque chose de... En effet, c'est pas du tout une peinture minimale, pas du tout une peinture conceptuelle, et c'est... Enfin, il y a quelque chose de très charnel dans ton travail des surfaces et de la couleur qui sort en fait de ce cadre-là. Oui, les bandes, on en a fait beaucoup, mais avec une conception, on va dire, un peu plus intellectuelle. Ici, on n'est pas du tout là-dedans.
Pas du tout, pas du tout. Et c'était un peu ça mon challenge. Parce que je pense que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup souffert d'un certain formalisme, ce que je voyais exposé, où il y avait une exposition avec le même tableau en fait qui se déclinait. Et moi, je me sentais pas bien là-dedans. Enfin, je sentais que j'avais autre chose à dire, que pour moi la peinture c'était pas ça. Et donc, je suis rentrée un peu en confrontation, en disant, bah oui, je peux le jouer autrement. Parce que, voilà, c'est aussi l'enjeu des peintres. Hein. Je cherchais absolument pas à faire une peinture originale, dans le sens où il fallait toujours du nouveau. Moi, j'ai été bercée là-dedans. Il fallait que ce soit nouveau, que ce soit jamais vu. Je voulais faire une peinture de mon époque, en prenant en compte tout ce que je voyais autour de moi et l'histoire contemporaine, mais avec le sentiment intime, intérieur que j'avais de la peinture que peut-être j'ai vue en regardant un Goya, en regardant un Rembrandt, en regardant un Chardin, en regardant... comment il s'appelle celui qui fait des peaux, j'adore.
Morandi.
Enfin, voilà. Et c'était voilà, c'est ce mélange-là, en fait.
Et par rapport à ces émotions de peinture dont tu parles et ce regard, comment il s'est fondé le choix de la ligne que ton langage, on peut dire, ce soit à partir de la ligne.
Alors, quand j'avais 18 ans, je faisais des lignes à l'encre de Chine. Je travaillais beaucoup la ligne. Pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer.
C'était intuitif.
C'est-à-dire que j'avais appris à dessiner et à faire du pastel avec une peintre. Ou alors j'avais fait des natures mortes, vraiment la formation. Donc je savais dessiner, je savais construire l'espace, etc. Mais je sentais que je ne m'exprimais pas avec ça. Que je savais faire, que c'était de la dextérité, mais que pour moi, ce n'était pas ça la peinture. Donc je faisais bêtement, simplement, je faisais des pages de lignes. Et puis un jour, dans Art Press, j'ai vu un article sur Barnett Newman. Et j'ai dit, bon, d'accord. Parce qu'on était en plein dans, il faut faire quelque chose de nouveau, etc. Donc j'ai refermé et j'ai arrêté de faire des lignes. Je l'ai mis dans un coin et j'ai dit, bon, voilà, j'étais trop jeune, j'étais trop seule aussi. Pour me dire j'y vais quand même puisque je faisais des lignes continuons quoi. Donc je l'ai vraiment mis de côté et puis il y a eu cette rencontre avec Talcoat et moi je regardais beaucoup la nature, la lumière, l'espace. Moi c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était l'espace, la temporalité, la lumière. Donc j'ai beaucoup travaillé à partir de ce que je comprenais de la peinture de Talcoat, mais qui était aussi quelque chose que j'avais en moi. Et puis, il y a un moment où je suis sortie de ça, et à ce moment-là, j'ai plus travaillé sur la surface d'un champ, l'écorce d'un arbre, la trace dans le chemin, mais toujours sans figure, c'est-à-dire en allant avec la peinture retrouver des sensations. Et j'ai beaucoup, pendant très longtemps, j'ai travaillé sur ce que j'appelle la peau du monde, c'est-à-dire tout ce qui est la matérialité. Mais je faisais quand même de temps en temps des lignes en cachette. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est ridicule. Faut que j'y aille, quoi. Et donc, j'ai repris, j'ai décidé d'affronter cette chose-là avec, tout ce que j'avais vu des peintres qui ont travaillé la ligne. Mais en me disant... En me dégageant, quoi, en n'étant plus sous l'emprise de ces grands artistes. C'est quand même beaucoup les artistes américains qui ont travaillé la ligne. Et en me disant, j'y vais moi, avec ce que je suis, mes questionnements à moi. Et c'est vrai que les Américains, quand ils travaillent la ligne, c'est pas la lumière qui travaille, c'est la couleur. Alors que moi, je travaille la couleur au service de la lumière. C'est-à-dire que pour moi, la couleur, je la travaille jusqu'à ce que ça bascule dans de la lumière.
Pour moi, en fait, de ce que tu viens de dire, il y a quelque chose de carnation. C'est-à-dire, enfin, toi, tu as parlé de Rembrandt, de Morandi. C'est vrai que enfin, les artistes de l'école de New York, en fait, n'étaient pas vraiment leur propos. Et il y a vraiment, je pense, dans ton travail, il y a vraiment quelque chose de la carnation de la couleur. Et du coup, la bande ou la ligne, parce qu'au final, une ligne, c'est une toute petite surface de peinture. Et c'est quelque chose qui... toi, tu mets en avant, je pense. Enfin, c'est peut-être là le décalage. C'est comme si l'école de Paris s'était réappropriée l'école de New York.
Oui, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai fait une synthèse entre les peintres américains que j'aime beaucoup, parce qu'il y a dans la peinture américaine une exigence qui moi, me touchait et je pense correspondait à quelque chose de moi, une ambition.
Radicalité,
mais en même temps une ambition, enfin quelque chose de... Alors que dans l'école de Paris, pour moi, il n'y a pas assez de tenue, de... Tu vois, je trouve que c'est parfois un peu... Le dessin, le fameux dessin, je le trouve un peu mou, quoi. J'aime bien une certaine rigueur dans le dessin. Pour moi, c'est très important, le dessin. Mais je pense que j'ai fait une espèce de synthèse entre la peinture occidentale et la peinture américaine. Parce que finalement, la peinture occidentale, c'est ma culture, c'est là d'où je viens, j'ai beaucoup regardé, donc je pense que j'ai pris beaucoup de choses. Mais quand j'ai découvert la peinture américaine, par rapport à ce qui se passait, moi quand j'avais 20 ans, entre 20 et 30 ans, par rapport à ce qui se passait en France, alors c'était la peinture américaine des années 50-60, hein, mais j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait. Tout en comprenant qu'il y avait une radicalité qui n'était pas la mienne, je pense que tout ça a été très important, quoi. C'est-à-dire que Maurice Louis, la manière dont il traite la couleur, mais
surface aussi.
Voilà, la surface. Moi, je trouve, justement, à l'exposition Monet et les peintres américains, je trouve que c'est très intéressant de mettre Maurice Louis et Monet l'un à côté de l'autre. Parce que c'est pas la reproduction d'un geste ou d'une touche ou d'une manière d'eux comme l'a fait l'américaine.
John Mitchell,
qui pour moi ne reprend qu'un geste. Maurice Louis, il comprend profondément la peinture de Monet, justement, l'espace, ça se dit de deux manières différentes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se dit de deux manières radicalement, mais en même temps, c'est pas si loin que ça. Et moi, c'est ça qui m'a, dans la peinture américaine, tu regardes Clifford Steele ou quand Art Reinhardt, c'est sublissime, quoi. Et je veux dire, il y a une même Rocco, il y a une sensualité, il y a un côté charnel, il quitte pas la peinture. Même Sol Lewitt, je veux dire, dans la manière dont il a d'aller sur le mur. C'est extrêmement sensible, c'est extrêmement charnel. Il y a la conception, bien sûr, mais après, la réalisation, et puis, quand on dit qu'on reproduisait ses dessins, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'il revenait derrière en disant un petit peu de bleu en plus là. Donc, en fait, il revenait aussi sur les propositions de départ.
Tu nous as parlé de ta couette et de la nature. Et de ton rapport de regard avec la nature. Moi, ce qui me frappe dans ta peinture, et notamment dans les rapports des couleurs, c'est qu'il y a quelque chose de totalement incongru, totalement étrange, presque. Ça me fait un effet, et j'y pense en étant là aujourd'hui, comme si c'était le contraire de la nature, en fait.
Ah, c'est drôle.
Je sais pas si ça fait...
Ah oui.
Les rapports de couleurs, pour moi, sont d'une étrangeté. Je sais pas comment
c'est ça qui décrire
cette sensation. Ben, je sais bien que c'est ça qui t'a... Enfin, je l'ai imaginé. Mais c'est une extrême étrangeté pour moi.
Mais, parce que pour moi, la peinture, c'est un autre lieu. C'est le lieu d'une altérité. Je crois que si j'ai eu ce mouvement d'aller vers la peinture, c'est parce que... quand j'étais enfant, enfin adolescente, que j'ai vu des peintures, parce que chez moi, il n'y avait pas grand-chose, hein, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas tout ça. Mais quand je me suis retrouvée face à je ne sais pas si c'était au musée de Rouen, je ne me le suis pas dit comme ça. Mais pour moi, c'était l'altérité. C'était là. J'ai dit, moi, c'est là où je veux aller. Tu sais, comme les enfants, j'ai un ami qui est violoniste. Quand il était petit, il a vu un petit violon, il a dit... Ça, c'est pour moi. Et ben, quand j'ai vu la peinture, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Je veux aller là. Alors après, tu montes dans la barque, tu sors les pagaies et aller là, c'est du boulot, quoi. C'est tout un chemin. Mais voilà, une aventure. Parce que pour moi, la peinture, ça reste mystérieux. Ça reste une chose mystérieuse. Quand je commence à peindre, même si je suis à l'aise parce que j'ai une expérience, mais chaque nouvelle peinture, c'est un champ d'inconnu. C'est ça qui me donne envie de peindre, et c'est ça qui me donne envie de refaire une autre peinture. C'est questionner cette chose-là en me disant, et c'est peut-être pour ça que ça te paraît incongru, parce que moi, je questionne la couleur en me disant, mais c'est quoi ça? Comment ça marche? Et donc, alors, je mets une couleur à côté d'une autre, puis je me dis, ah tiens, c'est bizarre, ah tiens, c'est harmonieux, ah tiens, ça se bouscule, ah tiens, c'est une découverte, tout le temps. Donc, ça, c'est peut-être ça, le côté incongru. Je sais pas.
Non, c'est sûr que dans ton travail, il y a quelque chose un peu de ça. Je le regarde depuis tout à l'heure et c'est comme si tu aurais été peut-être la meilleure élève de Joseph Albert. Tu vois, quelque
chose. Ça, c'est gentil. J'aurais bien aimé être la meilleure élève de Joseph Albers. Parce que lui, il en connaissait un rayon. Ouais. Oui, mais Joseph Albers, c'est pareil. Il cherche la lumière. Il est dans un rapport où la couleur est un moyen d'accéder à la lumière, à une recherche de lumière.
Parce que dans la couleur, c'est cette interaction. Enfin, tu vois, tu parles d'un bleu, mais un bleu à côté d'un rouge, le bleu change. Enfin, c'est...
Ah oui, complètement.
C'est un univers sans fin.
Ah ben c'est très volatile. Et Albers, il le dit, ça, que la couleur, c'est extrêmement instable. Parce qu'il suffit de mettre... une autre couleur à côté, effectivement, d'un bleu, d'un jaune, d'un gris, et ça va chanter autrement. Alors, pour moi, c'est aussi proche de la musique. Y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et comme moi, j'ai beaucoup travaillé le son, la parole, la musique, c'est un saut, mais qui quand même est ce rapport de continuité discontinuité, parce que moi c'est ça que j'aime bien aussi dans ma peinture, c'est qu'il y a une continuité, mais quand tu regardes il y a une discontinuité, il y a une disrupture. Le montage, c'est ça. Tu vas couper dans le temps de la parole, et puis tu vas associer un son, une musique. Et tu vas entendre la parole différemment, et la musique qui va venir va te donner un écho, et c'est pareil, ça résonne, il y a quelque chose qui résonne, qui sonne. Alors moi j'aime bien quand ça sonne faux, j'aime bien quand ça sonne juste.
Ça sonne très bizarre pour moi, c'est vraiment, je sais pas comment trouver d'autres mots que incongru. Pour moi, tu crées des espaces, mais complètement incongrus. Quoi. Je ne sais pas comment dire. Et je le ressens encore plus dans les bandes verticales, celles qui sont les plus droites.
Ah oui.
Parce que celles qui ondulent, il y a encore, même s'il est lointain, on peut encore imaginer un rapport, ça pourrait être des chevelures, ou en tout cas dans cet
entrelacement un peu plus angélant. Geste libre, oui.
Voilà. Alors que ces bandes-là, qui sont si nettes, et dans des rapports de couleurs aussi étonnants, c'est très déroutant pour moi. Mais c'est ce que j'aime, hein. Mais c'est très, très étrange pour moi. Ça fait exister des présences complètement étranges. Mmh. Presque, il y en a les plus puissantes pour moi, elles ont un truc vaudou.
Mmh. Oui, mais...
elles sont pas si nettes que ça.
Oui, quand tu t'approches, il y a des...
C'est pas...
Oui.
Enfin, on n'est vraiment pas dans une peinture minimale conceptuelle.
C'est... Non.
Non, il y a une saveur, il y a de la surface.
Il y a des bavures, il y a des accidents, oui. On voit des choses.
Il y a le velouté de la
vie, il y a des grains,
acoustiques.
Il y a des taches. Mais c'est drôle que tu parles vaudou parce que, en fait, c'est vrai que Moi, j'ai quand même beaucoup voyagé à l'étranger, notamment en Afrique. Et je ne pouvais pas peindre là-bas parce que je faisais des enregistrements, je faisais des interviews, j'enregistrais les ambiances, mais il y avait des choses extrêmement étrangères à ma culture, des lumières le matin, le soir, cette lumière qui brûle tout, qui écrase tout, tu vois, et qui ne vibre que très tôt le matin, le soir, la nuit tombe très vite. Donc des lumières que moi je ne connaissais pas ici en France. Et j'en ai gardé une mémoire, mais une mémoire corporelle. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement physique. Et moi, je suis très physique, hein. C'est-à-dire que je peins avec le corps. La tête, bien sûr, mais parce qu'il faut quand même du recul et réfléchir sur ce qu'on fait. Mais ouais, il y a une façon de prendre le monde. Moi, je prends le monde avec le corps.
C'est des corps aussi, c'est vrai. Peut-être ce que je décrivais, c'est aussi ça. Mais...
Et le côté incongru, moi, m'intéresse. Parce que le savoir-faire, c'est embêtant.
C'est-à-dire que tu cherches aussi à faire des choses qui sont incongrues pour toi, qui
oui,
vont te surprendre.
Bien sûr. Ah bah bien sûr, si je ne suis pas surprise, c'est pour moi, la toile, elle est à refaire, enfin, tu vois. Oui, moi, j'ai besoin d'être la première surprise.
Justement, tout à l'heure, tu parlais de ces deux espaces donc de décantation, un peu des peintures, où tu accroches dans un premier temps en haut, puis dans ton salon. Comment tu pourrais décrire le moment où tu sens que c'est comme ça qu'elle doit rester, la peinture ?
Parce que justement, je peux la revisiter sans lassitude, en retrouvant quelque... comme si elle, sous mon regard, elle pouvait renaître, qu'elle s'épuise pas dans mon regard, qu'elle continue à se tenir debout, et se tenir là, dans la présence. Et quand ça ne le fait pas, bah pour moi, je retravaille, je cherche. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que... Et donc je la reprends dans l'atelier et j'ai besoin la temporalité. Pour moi, une peinture, c'est comme un, comment dire, c'est comme une concentration de temps, comme un point fermé, parce que tout ce temps passé à la peindre se ramasse en un point sur la surface, et puis quand on la regarde, ça se déploie, ça s'ouvre comme une fleur. Et ça doit pouvoir tenir longtemps. Parce qu'il y a des peintures, enfin moi j'en ai fait l'expérience, il y a des peintures qui ne tiennent pas longtemps dans mon regard. Je vais dire ah ouais c'est bien ça. Et puis ça va s'épuiser très vite. Parce que c'est une idée, parce que je sais pas quoi. Enfin, mais ouais, cette notion que ça tienne longtemps, que ça tienne dans le temps, que ça existe. Ça, c'est super important pour moi.
Tu sais, ce qui me frappe, parfois, à force aussi de faire les entretiens, c'est qu'on dit beaucoup de mots, mais pour dire ce que c'est, pour dire ce qui se passe, en fait, on n'a pas de mots.
Non,
on dit ça existe,
non.
Ça tient, c'est là. Et ça me fait penser, du coup, je sais que vous avez une façon de parler d'une expo, quand vous sortez ensemble d'une expo avec Bruno, dire sol
ou leur sol.
Et comment dire autrement ?
Ben oui, il y a. Est-ce que c'est là ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, que parfois c'est très difficile à définir, mais qui est là, qui se tient devant soi, quoi, et qui résonne, qui. Et puis, il y a des fois, ça ne le fait pas, mais ça peut le faire pour d'autres. Mais en tous les cas, voilà, moi je vois très très bien, quoi, je sens très très bien cette chose-là. C'est... Oui, ça vit ou ça ne vit pas. C'est, et qu'est-ce qui fait que... Parce que bon, En fait, la peinture, c'est quoi? C'est des pinceaux, des pigments, du liant, une surface, des gestes. Voilà, puis à partir de ça, t'élabores après un langage. Mais la peinture, c'est le langage de la peinture, c'est la peinture. C'est pas le langage des mots. Et moi, j'ai toujours, et alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été premier. C'est-à-dire, quand je vois une peinture, c'est mes yeux, c'est la peinture que je vois. Et les mots ne viennent que bien après. Ça, c'est mon regard qui crée des mots. Il y a des gens, c'est l'inverse. Ils vont avoir besoin tout de suite de mettre des mots, ou de mettre une image, parce que ça les rassure. Mais et ils ne peuvent regarder que parce qu'il y a eu des mots d'abord. Ben moi, ça n'a jamais pu le faire comme ça.
C'est le contraire.
C'est le contraire. Et quand je regarde une annonciation, l'histoire de Marie, tu vois...
Ça dépend qui l'a peint.
Voilà, ça dépend qui l'a peint. Si c'est Frangelico, je regarde de près et je dis, ah, il est beau l'ange. Même si c'est quand même une histoire de fiole, hein, mais bon, c'est la peinture que je regarde en premier. Alors que beaucoup de gens ont besoin de l'histoire pour regarder la peinture. Mais on a tous une manière de regarder, on a tous des regards différents. On ne voit pas les mêmes choses. Moi, j'ai vu ça avec mes élèves. Je me suis rendu compte de ça. Je leur montrais des choses, ils ne voyaient pas. Et alors, effectivement, quand je leur disais, mais si, regardez là, tel endroit, la couleur, là. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une formation, c'est comme l'oreille.
Hein. Non, mais c'est sûr, c'est l'éducation. Enfin, l'œil, ça se travaille.
Bien sûr.
Il y a quelque chose qui est moins présent avec l'oreille parce que enfin, on est plus habitué ou quelque chose d'harmonieux va bien s'entendre, bien s'écouter, une fausse note.
Oh mon Dieu!
Tandis que l'œil peut trouver harmonieux une fausse note.
Oui.
Et donc du coup c'est tout un autre cheminement.
Oui, oui.
Moi j'aime bien, enfin, parce que du coup on parlait de Bram Van Velde et de Pierre Telcoat et en fait il y avait le mot surgissement en fait qui arrivait.
Oui. Oui. Ah oui, bah oui, le surgissement, c'est vrai que je pense que ces deux peintres-là étaient dans une attention au surgissement. Et alors, je sais pas, tu m'avais dit une fois, quand considères-tu qu'un tableau est fini? Et j'avais dit quand la lumière arrive. Et pour moi, le surgissement, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est quand la lumière arrive, quand la couleur recule. Et que en fait c'est une atmosphère qui s'installe, quelque chose qui est un peu indéfinissable. Hein. Après on peut mettre tous les mots de la terre dessus, mais moi c'est très physique, hein. C'est là quoi, c'est vibratoire. Hein.
Oui, parce que dans ta peinture, par rapport à ce que tu disais de l'Annonciation, pour décrire cette présence. De certaines histoires dans des peintures, dans ta peinture à toi, il y a une absence particulière d'histoire. Il y a particulièrement une absence d'histoire.
C'est pas si simple que ça. Moi, je pense que pour la personne qui regarde, il peut y avoir une histoire. Et moi, je me raconte quand même une histoire. Je sais pas. Mais je me raconte une histoire avec la peinture, pas avec des mots. C'est avec la peinture que je discute. C'est pas avec les mots. Mais je me raconte une histoire, autrement je ne parlerai pas.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose de la rencontre aussi. En fait, avec tes toiles. Parce que du coup, là, je regarde autour de l'atelier. Je peux me dire, tu vois, celle-là, donc, du coup, c'est. C'est différent bleu. Pour moi, celle-là, je la rencontre pas. Enfin, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi, celle-là, celle-là, c'est pareil. Mais par contre, il y a des choses beaucoup plus affirmées sur d'autres. Où là, je me dis, là, je la rencontre. Là, il y a un dialogue qui commence
qui s'installe.
À...
Ouais. Oui, oui.
Du coup, je sais pas, toi.
Ah ben moi, ça s'installe avec tout, autrement, je ne les aurais pas fait. Oui. Mais.
Ou pas garder.
Oui, ou pas garder. Mais je peux tout à fait comprendre qu'effectivement, il y a des rencontres qui ne se font pas. Et puis, il y a des rencontres qui se font.
Enfin, après, moi, je me permets de dire ça parce qu'on est dans le sas. Oui.
Mais c'est vrai que quand tu le dis, ça, je l'entends. C'est-à-dire, c'est particulièrement net la façon dont on rencontre certaines et pas d'autres. En termes de sensations, c'est très net. Il y en a, c'est... que je comprends et d'autres pas. Comprendre au sens...
Oui, c'est parce que je reviens au lieu. Parce que ces peintures-là, ce sont des lieux. Et donc, y a des lieux avec lesquels on dialogue, on se sent bien, on circule à l'intérieur. Et puis d'autres où on n'a pas envie d'entrer, quoi. J'ai pas envie d'aller là, moi. Ouais. Voilà, alors je suis jamais allée là, on me dit d'essayer. Mais comment dire, oui, cette, comment dire, de penser avec la peinture, c'est rare, enfin, je me rends compte que les gens ont toujours besoin de penser avec des mots la peinture, même les peintres. Alors que non, moi c'est vraiment ça qui est premier, quoi. C'est mais comme un musicien va pouvoir écrire une partition et entendre la musique à l'intérieur de sa tête, quoi.
Je pense qu'il y a de ça dans ta peinture, ouais. Enfin, t'es vraiment dans la partition, dans la note colorée. Qui au final finit par faire une mélodie différente à chaque fois.
Oui, c'est ça. Après, c'est des hauteurs, c'est des ajustements de ton. C'est un peu plus haut, je vais monter un ton, je vais en descendre un, ou je vais les mettre à égalité pour qu'ils se... Mais avec... une rupture, c'est vrai que quand je pense à moi en train de faire du montage, quand j'étais dans Radio France dans ma cellule de montage, c'était mes oreilles qui fonctionnaient, c'était pas ma tête, c'était ce que j'entendais et je travaillais avec ça. Et mon rédacteur en chef, en fait, il m'a dit, mais moi c'est pour ça que j'avais envie que tu travailles avec moi, parce que tu travailles comme un peintre. Tu fais de la radio comme un peintre. Parce que c'est vrai que j'avais besoin de mettre une ambiance, une couleur. Enfin, quand j'interviewais quelqu'un, il y a un contexte. Là où vit la personne, comment se déroule sa pensée. C'est tout ça qu'il faut essayer de faire passer. C'est pas uniquement le discours intellectuel. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Quand on écoute la radio, c'est vraiment une parole. Bon, c'est intéressant, mais il manque
la poésie.
Il manque la poésie. Et par rapport à justement la poésie, c'est un bon exemple, parce que la poésie, c'est prendre des mots qu'on a l'habitude d'utiliser et de les mettre ensemble de façon incongrue parfois, mais pour dire quelque chose qui ne peut pas se dire autrement que ça. Et pour moi, la peinture, c'est ça. C'est-à-dire, ça ne peut pas... C'est ça, quand tu dis, on n'a pas de mots, on emploie des mots dans des registres très différents, la musique, la nourriture, et ça. Mais parce que la peinture, elle a son langage, et elle parle avec son langage. Et elle dit quelque chose qui ne peut pas être dit autrement. Ça ne peut être dit que là, comme ça.
Donc ça ne peut être que vu.
Bien sûr. Pour moi, la peinture, c'est au-delà de la parole. C'est un espace de silence. Même si après, il y a des mots qui peuvent venir. Mais il peut venir pour moi, quand je regarde la peinture des autres, ça peut être une odeur, ça peut être... des choses très très différentes, quoi, mais qui sont des associations, qui ne sont pas des illustrations, c'est-à-dire qui ne sont jamais superposable, qui se tire par un fil, mais qui parce que nous sommes des êtres d'échange et de langage, donc on a besoin de, mais qui sont inaltérables. La peinture, la poésie, la musique, la sculpture, enfin la littérature, c'est inaliénable pour moi. Ce sont des lieux inaliénables. Alors après, on peut y aller, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ne se privent pas. Mais pour moi, ça a cette chose précieuse qui est ça, que c'est pas aliénable. Ou alors les gens qui font ça, pour moi, ce sont des médiocres, tu vois. Voilà.
Comment tu peux préciser inaliénable ?
Tu peux pas violer tu peux pas violer un espace de peinture. Tu peux le détruire par des mots, bien sûr, mais néanmoins, malgré tout, c'est pour ça que je dis que si les gens font ça, ce sont des... Moi, il y a des peintures que j'aime pas, mais j'ai un respect profond, même des peintures que j'aime pas, que je peux critiquer avec des arguments en disant pourquoi pour moi, voilà. Mais néanmoins, c'est comme la musique. C'est pour ça que je parlais d'altérité. Voilà, l'altérité, c'est inviolable. Et ceux qui font ça sont des mécréants. Enfin, sont des méchants. Il y a des gens qui font ça. Attention. Et des gens qui se disent aimer l'art. Voilà, on va mourir, on va tous mourir, à un moment ou à un autre. Voilà. Mais il y en a, ils ont découvert un trésor en étant chercheurs, en observant les étoiles, d'autres en observant des petites cellules qui permettent de guérir des gens. Nous, on ne guérit pas, mais je pense qu'on emmène dans quelque chose qui est très précieux. Et la société dans laquelle on est fait que plein de gens s'en fichent, mais on le tient, ça. Parce que c'est une chose qu'on tient.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la sincérité aussi, qui fait une pièce, une œuvre, un tableau ?
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a des peintures qui mentent pas, et il y a des peintures qui mentent. C'est vrai. Mais comme la parole. Alors moi, je suis... je le ressens, ça, très fort. Très fort. Sainte Scully en parlait de ça.
Ah oui.
Ouais, il en parle de l'honnêteté, de la sincérité dans une œuvre. Et c'est pas tout le monde.
Ça va être là.
Bah oui. Non, c'est bien, non ?
C'est bien, ouais.
Ce que vous avez en boîte.
Est-ce que
tu as d'autres questions ?
Je veux dire, ça enregistre là ? Non, ouais. Juste pour savoir s'il y a justement une chose qui était chère et qu'on n'aurait pas abordée. Quelque chose d'important, un mot qu'on n'aurait pas.
Non, on parlait tout à l'heure d'un mot qui moi est important pour moi, je sais pas si on en a parlé dans l'entretien, c'est le mot amour.
Non, on n'en a pas parlé dans l'entretien, c'était off.
Et là on est dans le off. Hein.
On est dans le off.
On est dans le off.
C'est bien. Non mais c'est vrai, c'est ça, c'est vraiment une chose importante.
Comment tu peux en parler ?
Mais j'en parle parce que quand j'ai vu des peintures. De Rembrandt parler de Vermeer, il y a un amour là-dedans, mais c'est incroyable, c'est vrai, et moi je l'ai ressenti, tu vois, je me suis dit, ce gars-là, il aimait, hein. Tu peux pas autrement, tu vois, je pense que les grands artistes sont des amoureux, des gens qui aiment. Alors, ils aiment de façon différente, hein, parce qu'on n'est pas tous de la même façon. Mais néanmoins, et moi, moi, c'est ma manière d'aimer les autres. Hein.
Attention, parce qu'on est dans une période conceptuelle, là, si on commence à parler de romantisme, attention.
Mais je ne sais pas si c'est du romantisme.
Non, non,
c'est des... Tu vois, c'est pas, pour moi, ce n'est pas du romantisme. C'est, la vie, c'est de l'amour. Tout ce qui est vivant, il y a quelque chose d'amoureux. Tu vois ? Même dans la nature, même si la nature elle est indifférente, elle se fiche de nous radicalement, mais il y a quand même quelque chose de voilà, les fleurs qui poussent, les, tu vois, donc oui, moi je n'ai pas peur d'employer ce mot-là. Alors il y a, je veux dire, l'amour c'est comme le reste, hein, ça se travaille, ça se construit, ça se déconstruit, ça se...
Tu bon. Gagnes, tu perds.
Voilà, enfin, tu gagnes, tu perds, tu le rejettes,
tu
bats avec, il y a tout quoi. Ouais. Mais néanmoins, quels sont les grands artistes qui sont nés sous un régime totalitaire ? Ah, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça.
Il y a des artistes.
Faut un espace pour.
Ouais. Des artistes qui ont.
Après, c'est complexe, ça, quand même. Bah, après, c'est sûr que tous les exemples. Enfin, là, du coup, ça va être vite. On va tomber dans la Seconde Guerre mondiale. Bah, y a déjà des artistes qui étaient apparus avant. Le système totalitaire les
oui,
a
c'est
quand
ça.
Même...
Oui, ben c'est comme en Russie. Les artistes, les grands artistes russes, ils sont apparus avant le système totalitaire. Voilà. Et c'est le système totalitaire qui, à un moment donné, a dit...
Qu'il y a, enfin, quelqu'un comme Otto Dix, le système nazi l'a bien calmé. Enfin, c'est,
Ah ben, complètement, oui.
Après, il y a des gens comme Beckmann.
Oui.
Qui ont... Bon, après, c'est...
Mais ils sont, si tu veux, ils sont quand même... Très rare, quoi, je veux dire, moi, je pense que la vie amène la vie. C'est-à-dire que la circulation de la vie donne de la vie, fait de la vie. Mais dans nos sociétés aujourd'hui occidentales, soi-disant démocratiques, je ne sais pas si on apporte de la vie. Je pense qu'on apporte beaucoup de production, mais au sens...
Là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que l'acte de peindre ou d'être peintre est un acte politique.
Oui, oui. Pour moi, c'est un acte politique. Ouais.
Un choix.
Mais oui, mais il y a des... Oui, oui, c'est un choix.
Un choix de résistance, un choix de...
Pas de résistance, mais justement de dire... d'être garante de cet autre lieu qu'est la peinture. Voilà. De dire, ça existe, c'est là, c'est important, même si je suis toute seule à le faire dans mon coin et que les autres n'ont rien à foutre. Mais c'est comme de maintenir une petite lumière allumée, tu vois. Voilà, moi, comment dire, j'ai senti ça en moi. Et c'est une manière d'honorer ce que j'ai senti en moi, quoi. Et un peu contre vents et marées, hein. Voilà, alors il y en a qui produisent beaucoup de lumière, d'autres des petites lumières, mais néanmoins c'est tout aussi important. Hein. Puis il y en a qui produisent de la lumière artificielle.